Et c'est donc le plat de résistance qui s'ouvre à midi 10. Ce plat de résistance un peu spécial ce midi, vous l'aurez compris, puisqu'on va parler effectivement des radios associatives et du sort qui nous est fait depuis une semaine. Un mauvais sort lancé en direction de toutes ces structures à but non lucratif. On va y revenir, bien sûr, dans ce plat de résistance un peu spécial, je le disais, avec lequel eh bien, on va parler de la mesure que le gouvernement souhaite contre les radios associatives avec ce projet de loi de finances qui va rentrer en débat effectivement, alors déjà en commission de finances depuis peu et à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ce sera débattu, alors on parle de ce projet de loi de finances et des conséquences prévues pour les radios associatives avec tous nos invités qui sont là. Tout d'abord, on va saluer ceux qui sont sur le plateau et dans un sens, c'est toujours l'occasion de se retrouver, ce qui est assez rare pour nos médias. Bonjour Geneviève. Geneviève Tessier, tu es le historique dans les radios associatives avec RIG, Radio Iguanodon à Blanquefort, une des premières radios libres de Gironde, comme l'est La Clé des Ondes, et puis comme l'est également RCF, qui à l'époque s'appelait RCF Radio Harmonie, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle. Geneviève, toi tu es la fondatrice de RIG, et puis on est avec Nicolas Loubert. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, toi tu es à Radio Campus Bordeaux, c'est pas toi qui l'a fondé?
Non, c'était en 92 et j'étais pas à la radio en 1992, pas encore. Bientôt, presque, mais non.
Mais pas encore. On est également au téléphone avec d'autres radios à travers la France. Si tout fonctionne normalement, on est avec toi, Émilie Vigouroux, bonjour.
Bonjour.
Émilie, toi tu bosses du côté de Reims, dans le Nord-Est, cette terre qui m'est si chère, et tu bosses à Radio Primitive.
Tout à fait, je suis la directrice de Radio Primitive, qui est la radio associative rémoise la plus ancienne encore vivante.
Alors, et en plus, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais Primitive a été une radio pirate pourchassée, oui, quand elle s'appelait Radio Manivelle.
Tout à fait.
Et on est également avec Emma Audrey. Emma, est-ce que tu es bien avec nous également? Ah, Emma, est-ce que tu nous entends? Ah, on ne t'a pas, alors on te récupérera tout à l'heure. Emma Audrey, qui est journaliste à Radio Bip du côté de Besançon. On sera avec toi dans un tout petit instant, bien entendu. Ça, c'est les aléas techniques. Emma, tu es avec nous?
Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Et on t'entend très bien.
Je vous entends très très bien. Je ne sais pas si c'est avec chez vous. En tout cas, moi, je vous parle.
Très bien. Eh ben, ça fonctionne. Merci beaucoup, Emma, d'être avec nous. Alors, peut-être tu peux présenter également Radio Bip du côté de Besançon.
Ah, c'est une radio associative, comme évidemment vous. Et c'est une radio qui a été créée en 1977. Hein. Elle s'appelait Radio 25. Hein. C'était une radio pirate qu'on plaint, hein, d'ailleurs, en France, avant la libération des ondes. Donc, c'est devenu Radio Byzantine Indépendante et Populaire. C'est un média indépendant qui a aussi un canal vidéo qui s'appelle Média 25.
Merci beaucoup, Emma. Alors, effectivement, on est ensemble sur la Clé des Ondes pour parler de cette situation, du fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce fonds qui est un fonds majeur pour les radios, qui est également un conquis social, il faut le dire. Les radios associatives, on va en discuter de cette histoire sociale aussi des radios associatives. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est menacé d'une coupe, 30%, 30 à 35% de coupe. C'est-à-dire que les 12 millions d'euros d'économie que doit faire le ministère, sur ces 12 millions d'euros d'économies à faire, il y en a 10 millions qui seraient portés par les radios associatives et bien sûr par conséquent avec des situations selon nos radios qui peut être de la suppression d'emplois à peut-être la disparition. Geneviève, toi qui as ce regard de la construction de ce modèle économique des radios associatives, comment tu vois ce coût qui est porté au monde des radios associatives si ce projet de loi de finances va jusqu'au bout? Ah, alors Geneviève, on ne t'entend pas. Ça, c'est la magie des radios associatives aussi, probablement. prends l'autre micro, visiblement, mais... C'est la magie du direct et des radios Asso, hein, ça.
Alors,
on les refera pas. Et là, on t'entend bien. Voilà.
Bon, ben, écoute, on va parler là. C'est donc un coup dur, en effet, pour les radios associatives, mais en même temps, je pense que c'est un coup dur aussi pour... puisque, malheureusement, les syndicats qui ont fait une étude un petit peu plus poussée que nous parlent quand même de... Si ça se continue, de plus de 200 radios sur les 700 qui disparaîtraient avec cette diminution, sachant que s'il y a une diminution d'un tiers cette année, pourquoi pas un tiers l'année prochaine et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est notre manière de vivre. Même si le fonds de soutien au départ n'avait pas été créé pour que l'on puisse continuer à l'avoir, on aurait dû normalement pouvoir trouver localement de quoi vivre. Mais ça, ça n'est pas possible puisque les services publics qui devraient pouvoir nous aider ont eux aussi des coupes dures dans cette loi des finances. Donc c'est vrai que quand tu envoies un document, par exemple à Alain Rousset disant qu'on nous enlève 10 millions, pour lui sur les 136 millions je crois que j'ai vu passer par le MANA, c'est rien quoi, je veux dire, il a dû sourire, mais bon, pour nous on peut pas sourire là-dessus. Et en même temps, c'est un coup dur pour toute la profession, parce que si les radios associatives meurent, ça sera la place à qui ces fréquences? Le CSA n'a pas parlé de ça. Le CSA ne sait pas encore, enfin l'ARCOM maintenant ne s'est pas encore exprimé.
Alors, mais il y a eu une expression toute récente du président de l'ARCOM, effectivement, Roch-Olivier Maistre, qui est le président, qui s'est effectivement exprimé. Alors, j'avance un peu du coup, on va en revenir peut-être dessus, mais Nicolas, peut-être toi dire comment déjà tu as accueilli cette nouvelle, et par rapport aussi à Radio Campus, qu'est-ce qui peut être engendré par une telle coupe?
On a appris la nouvelle, ben on a sorti le champagne du frigo, on était très contents. Non, bien sûr, c'était un coup dur aussi pour nous, parce que le FSER, c'est moi qui m'en occupe en plus, Radio Campus, qui fait ce gros dossier, c'est un temps fou hein, pour construire ce dossier. Donc je connais bien le FSER et c'est vraiment un allié en fait pour nous, ce fonds de soutien. C'est un allié, ça nous aide. À employer des personnes, ça nous aide à acheter du matériel. Tous les 5 ans, grâce au FSR, on peut renouveler le matériel des radios. Ça, ils n'en ont pas encore parlé, encore, du fonds de soutien version équipement pour les radios. C'est très important pour nous. Donc, c'est vraiment un soutien. Il s'appelle fonds de soutien, mais c'est ça. Mmh. C'est vraiment un soutien à notre action. Sans lui, ou s'il est bien réduit comme ça a l'air d'être envisagé, c'est forcément pour nous, pour toutes les radios associatives et donc Radio Campus, un énorme coup dur.
Émilie, effectivement, Nicolas rappelait l'importance de son fonds de soutien à l'expression radiophonique. Chez nous, à la Clé des Ondes, il est structurant. C'est plus de la majorité de notre budget qui est composé par ce fonds de soutien. Sa suppression, ce serait, s'il est fait stricto sensu, à 30%, comme c'est envisagé au niveau de l'enveloppe nationale. Nous, ça ferait 20 000 euros en moins. Ce sont bien sûr des investissements, mais aussi de l'emploi qui serait dégradé. Vous, quelle est la part du côté de Radio Primitive à Reims, Émilie Vigourou, de cette importance du fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce FSER?
Oui, alors quand on a appris la nouvelle, passé la stupéfaction, on a sorti les calculatrices. Donc les FSER nous représentent 46% de nos ressources. Donc c'est énorme. S'il est réduit donc à hauteur de 29-30%, les derniers chiffres qu'on a pu avoir, on parle d'une perte autour de 24 000 euros. C'est pas très compliqué, hein. Si ça arrive, nous on a 4 salariés, 3 temps plein, 1 temps partiel, c'est un poste temps plein qui saute. Donc ça pose déjà la question de l'emploi et de l'humain qui occupe l'emploi en question. Et puis après, le fonds de soutien à l'expression radiophonique fonctionnant aussi avec un système de points, hein, puisque c'est quand même pas un cadeau, c'est parce qu'on remplit des missions qu'on touche de l'argent via le FSER. Si on a des salariés en moins, à un moment, même si on a des bénévoles très engagés, ils n'arriveront pas à remplir toutes les actions de ce poste qui disparaîtrait. Donc en plus, par la suite, on aurait sans doute moins de points au FSER et donc encore moins d'argent. Et puis comme une invitée l'a dit en plateau, s'il commence à couper dans le FSER, il n'est pas impossible qu'il recoupe dedans. Et puis autre chose, dans le projet de loi finance, on n'est pas les seuls à être mal lotis. Il faut savoir que l'été dernier, la protection judiciaire de la jeunesse a appris qu'elle avait un plan de réduction budgétaire. Nous, on travaille beaucoup avec la protection judiciaire de la jeunesse. Il n'est pas impossible, ils nous ont prévenu qu'ils dénoncent la convention qu'on a avec eux par rapport à des ateliers radiophoniques. Donc si on rajoute la perte possible du FSER, la perte possible de la convention, enfin des subventions liées à la justice locale, à la PJJ, et puis le fait que notre autre plus gros client, on va dire, en dehors de subventions et l'éducation nationale, autant dire qu'on ne sait pas trop où on pourrait aller chercher de l'argent. Ça devient extrêmement compliqué. Donc bien sûr, certains nous parlent de mécénat, hein, c'est dans l'air du temps. Ça me paraît être une proposition absurde. Voilà.
Alors merci beaucoup, effectivement, Émilie, pour cette analyse. Emma, du côté de Radio Bip à Besançon, toi en plus, tu es à un poste où potentiellement tu ramènes pas de fric, tu es journaliste, donc à proprement parler, tu peux pas monétiser beaucoup de choses et tu peux pas convaincre non plus, je pense pas, des gros actionnaires comme Vincent Bolloré d'investir dans Radio Bip, ce sera pas ton souhait. Est-ce que vous avez déjà pu un peu regarder, vous, les conséquences que ça aurait, cette suppression d'une partie, d'une grande partie de ce fonds de soutien à l'expression radiophonique?
C'est assez évident, comme nos collègues, nos confrères, consoeurs des autres radios, et c'est la même chose, en fait. Ça va impacter lourdement notre média, lourdement dans un sens où nous, spécifiquement nous, on s'est vu voler l'ensemble du matériel il y a 2 ans, et puis ça a été un manque à gagner d'à peu près 15 000 euros. Donc très très compliqué quand on a ce genre de situation. Évidemment, les assurances, vous imaginez bien, ne remboursent pas, en tout cas pas ce qu'il faudrait. Et donc fatalement, ça fragilise. En plus de cette fragilité-là, il y avait aussi, comme toutes les radios, pas grand-chose en termes de ressources extérieures, puisque nous sommes une radio qui ne fait pas de la publicité. Donc il y a zéro publicité, comme d'autres d'ailleurs. Donc, fatalement, le but de notre média, comme le but des autres médias, c'est d'informer, c'est évidemment de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, donner la parole à ceux qui ne se retrouvent pas dans les autres médias mainstream. Et donc, tout ça risque de disparaître si cette loi passe, enfin, cette volonté de réduire de façon conséquente, hein, j'appelle ça, le financement de l'ensemble des radios associatives. Et puis, n'oublions pas que le but du FSER, c'est avant tout de fonctionner les radios. C'est-à-dire que cet argent-là n'est pas là pour autre chose que pour faire fonctionner les radios. C'était le but. Hein. Et d'ailleurs, c'est exactement c'est le cas partout. Hein, je le vois, hein, de façon globale. Ce n'est pas un argent qu'on aurait de côté et puis qu'on ne saurait pas quoi faire de cet argent-là. Et puis, je rappelle aussi que sans cet argent-là, on ne pourrait même pas, certaines radios ne pourraient même pas amener au bout le contrat qu'elles ont avec l'ARCOM pour une diffusion H24 sans coupure, parce que ça engendre évidemment des défaillances techniques quand le financement n'est plus là. Donc, voilà, très, très, très important, hein, comme impact.
On va, après ce premier tour de table, on va évoquer dans un instant surtout les possibilités qu'on a de lutter, et on le sent au sein des radios associatives, il y a une vraie possibilité de lutter ensemble, et ce qui fait forcément plaisir, mais tout ça, on en parle juste après. Les Clash, This is Radio Clash. All programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. On retourne pour quelques minutes dans l'ambiance qui avait peut-être musicale, qui avait au moment de lancement d'un certain nombre de radios pirates avec les Clash, This is Radio Clash sur la clé des ondes, et avec quatre autres radios qui nous accompagnent pour parler de ces radios libres, associatives qui sont toujours là et bien en place. Pirates certaines, d'autres se sont créées légalement. Geneviève, on t'a évoqué tout à l'heure effectivement l'ARCOM et comment l'ARCOM se positionnait sur ce sujet. Roch-Olivier Maistre a dû répondre hier lors d'une audition au Sénat à la question hier soir, à une question de deux sénateurs, un sénateur et une sénatrice, sur la question effectivement du financement du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui se retrouvait être coupé de 30% tel que le prévoit le projet de loi de finances. Et Roch-Olivier Maistre a, il faut quand même le signaler, en effet, du haut de son autorité, somme toute peut-être relative et en tout cas consultative, mais affirmer que ce serait une erreur que d'aller vers cette coupe envisagée. On écoute Roch-Olivier Maistre.
Bien compris, les radios associatives, plusieurs d'entre vous l'ont dit, jouent un rôle très important dans la vitalité de notre paysage audiovisuel, dans la vitalité de nos territoires, et la remise en cause de pratiquement un tiers des crédits de ce fonds essentiel pour la vie de ces radios associatives serait, je crois, gravement inopportune, mettrait en difficulté ces radios, ça va sans dire, dont le modèle économique est fragile, mais serait très gravement inopportune au moment où se déploie le DAB+, et où ces radios associatives jouent un rôle très important dans ce déploiement.
Gravement inopportune, voilà l'expression consacrée par Roch-Olivier Maistre du haut de son statut et son mandat de président de l'ARCOM pour quelques mois encore, l'autorité de régulation, donc qui se prononce en tout cas assez officiellement sur l'atteinte qui serait faite à l'économie des radios associatives. Geneviève, qu'est-ce que ça t'inspire comme réaction, Geneviève Tessier de RIG à Blanquefort?
Disons que oui, c'est bien qu'il ait dit cela, mais c'est vrai que c'est pas malheureusement lui qui est décisif. J'espère qu'il aura pu convaincre des sénateurs qu'il a vus à ce sujet. Mais j'avais envie de revenir sur ce qui a été dit par Émilie sur le mécénat, parce que on confond souvent le mécénat, mais le mécénat c'est souvent une pub. Et il faut savoir que si le fonds de soutien baisse, c'est-à-dire que les 20% de ce fonds de soutien vont aussi obligatoirement baisser. Et j'ai peur que sur certaines radios qui ont réussi à avoir un petit peu de pub dans leur radio, ça peut être important pour elles. Chacune essaye de vivre à sa manière, n'a pas toujours des subventions. Par contre, parler justement des personnes localement et donc font de la pub pour local, que justement ces radios aient un problème l'année prochaine, puisque le fonds de soutien baissant, le 20% va être obligé de baisser, donc risque d'avoir aussi.
Pour bien préciser aux auditeurs et aux auditrices, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir des publicités sur son antenne et un quota qu'il ne faut pas dépasser. Ce quota est de 20%. On ne peut pas avoir son chiffre d'affaires, son bilan comptable, plus de 20% qui viendrait des publicités.
Voilà, donc c'est 20% des recettes des radios associatives. Donc obligatoirement, si la recette diminue par le fonds de soutien, puisque la subvention c'est dans les recettes, donc à ce moment-là, en effet, les 20% vont diminuer aussi, donc ça va mettre aussi en danger certaines radios qui peut-être font de la pub et auront peut-être à ce moment-là. Et le mécénat, c'est rarement. Et on a parlé aussi, j'ai entendu au niveau de la loi des finances qu'il y avait aussi peut-être une restriction sur la question des dons par rapport au CERFA, puisque nous, les radios associatives, nous pouvons faire des CERFA pour ceux qui nous font des dons, il n'y a pas de pub là-dessus, mais c'est pareil, de 66%, ils parlent de le baisser à 50%, donc les donateurs vont être peut-être plus frileux, on va dire, pour nous donner des dons, enfin si on arrive à en avoir. Donc c'est vrai que ce mécénat, ce n'est pas, ça peut être une aide comme ça, mais ce n'est pas vraiment la panacée, quoi, je veux dire, pour les radios associatives.
Nicolas, tu veux ajouter un mot ?
Oui, alors nous, en plus, on ne fait pas de publicité. On a fait ce choix à Radio Campus Bordeaux de ne jamais mettre de pub à l'antenne parce que ce n'est pas notre identité. Et puis, on trouve que ça pervertit un petit peu nos programmes, quoi. Ça les salit un petit peu. Donc nous, on a fait ce choix-là. Donc on peut même pas aller. Nos auditeurs ne comprendraient pas qu'on aille vers la pub. C'est-à-dire qu'avec ces 30% de moins de FSER, on pourrait se dire, eh bien, on va faire de la pub. Mais non, on peut même pas se le permettre parce que c'est toute notre identité qui serait remise en cause, en fait.
Moi, je te rejoins complètement. En plus, au niveau de la clé des ondes, j'imagine pas la tête que vous feriez, chers auditeurs, chères auditrices, si vous entendiez d'un seul coup des pubs à l'antenne de la clé des ondes, où effectivement, historiquement, en tant que radio anticapitaliste, il y a eu une volonté de ne pas aller vers le monde de la publicité, bien qu'effectivement, on peut en discuter encore avec toi, Geneviève. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on entend aussi, parce que tu dis, Geneviève, que le bilan, le budget d'une radio associative baisse à cause du FSER, le budget des pubs va baisser, et ça rejoint aussi ce que Émilie, par ailleurs, tu disais, c'est-à-dire que les budgets de la PJJ, eux, se font raboter, et donc ton budget va également baisser. Nous, je pense effectivement à la clé des ondes, à d'autres budgets qu'on peut avoir en lien avec Bordeaux, le département, ou par exemple la maison d'arrêt à Gradignan, où là c'est la justice, et la justice va se faire grandement raboter aussi. Cette inquiétude sur les possibilités de se faire rogner le budget d'un peu partout. Est-ce que là, les uns les autres, vous voyez une possibilité de l'affronter? Et si oui, comment, Émilie, à Radio Primitive, à Reims?
Alors, la feinte, ça me paraît vraiment, vraiment compliqué, parce qu'effectivement, nous, nos ressources donc, proviennent à 46% du FSER. Après, on fait un peu de prestations, mais pour l'éducation nationale, il n'y a pas de publicité. Hein. Radio Primitive, il n'y en a jamais eu depuis 81. Et ma foi, c'est pas du tout prévu qu'on bascule vers cela, même si on avait le couteau sous la gorge. Mais nos autres ressources, donc je vous dis, des prestations, surtout pour l'éducation nationale, ils viennent d'avoir 4000 postes de supprimés. Donc autant dire que c'est pas de leur côté qu'il faut aller chercher un espoir d'argent. Nous, après, on a la PJJ qui vient de subir des coupes budgétaires. Il parle de coupes aussi sur tout ce qui est politique de la ville, contrat de ville, qui est une autre, qui font partie des subventions de projets qui nous permettent de vivre au-delà du sens que ça a aussi. Hein. Il parle éventuellement aussi peut-être de petites retouches sur les postes FONJEP, qui sont des aides à l'emploi. Donc à un moment, si il y a des coupes absolument partout, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de solution. Un de nos bénévoles a dit pour rigoler que la solution la plus pertinente était peut-être de penser à la piraterie et aux eaux territoriales. On en est plutôt là. Voilà.
Effectivement, reprendre le modèle de Radio Caroline qu'on voit dans Good Morning England, bon, on verra si on n'y est peut-être pas encore. Mais surtout, Crin, c'est quand même loin de la côte.
Oui, on commencera sur notre canal. Non, mais par contre, on n'est pas défaitiste. Nous, on n'est pas en train de se dire qu'on va mettre la clé sous la porte. Hein. Ça, je pense que c'est important. Hier, on a été interviewé par France 3 qui nous ont beaucoup demandé, bon, alors, vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Non, on n'en est pas là. Et surtout, on compte se battre. Se battre contre cette baisse du FSER, se battre contre les coupes budgétaires qui sont faites dans des secteurs même autres que le nôtre et qui nous paraissent très très importantes pour la vie des personnes en France actuellement et qui sont des sommes qui permettent de soutenir des initiatives locales, qui donnent la parole à des personnes qui habituellement n'ont pas accès aux médias. Enfin voilà, je vois plus une dynamique de lutte qu'une dynamique de renoncement.
Alors, France 3 était également dans les locaux de la Clé des Ondes il y a encore quelques instants pour faire un reportage à l'occasion de cette mobilisation en effet qu'il y a au sein des radios associatives. Ça me faisait penser que eux ont affronté aussi en tant que service public de audiovisuel d'avoir un budget flou, d'avoir des coupes drastiques du fait des contrats objectifs et de moyens, que ce soit pour la radio mais également pour la télévision. On voit que là c'est le secteur associatif qui en prend plein la tronche du fait de cette coupe qui est envisagée de 30% sur notre fonds principal alloué par le ministère de la Culture. On voit en tout cas possiblement deux secteurs qui sont attaqués, le public et le privé non lucratif. Reste au milieu le privé commercial qui peut-être, si des radios associatives disparaissent, pourrait récupérer en plus quelques fréquences FM. Emma, comment tu analyses, toi, cette période qu'affrontent les radios associatives et les services publics par ailleurs? Du côté, pardon, Emma Audrey qui est à Radio Bip à Besançon, pardon.
Oui, y a tellement à dire en fait. Il y a une colère noire là qui s'enclenche pour plusieurs raisons. Déjà, un premier constat, c'est que le gouvernement Macron a choisi de laisser les riches être riches, hein, d'enrichir les riches, très, très honnêtement, amener le pays dans une situation de faillite économique. Et ensuite, premier réflexe que ce gouvernement a, c'est de s'attaquer aux plus fragiles, aux plus j'ai pas envie de dire pauvres, mais vraiment les plus fragiles financièrement. Donc, attaquer des associations, des radios associatives qui font un travail fantastique sur le territoire de ce pays. C'est grâce à ces radios que beaucoup d'informations passent. C'est pas que les mainstream qui existent sur cette planète. Il y a aussi les radios associatives qui ont, il me semble, c'est la première radio de France, hein, si on les cumule. Alors, non seulement il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont disparaître, mais en plus de ça, donc c'est complètement ahurissant de dire je fais des économies, mais je vais créer du chômage. Je veux dire, il n'y a absolument aucune logique. Et puis, il faut quand même se poser la question de pourquoi cette attaque et qui va être attaqué dans les radios associatives. Donc, dans les radios associatives, celles qui vont disparaître ou bien qui vont se retrouver complètement amorphes, hein, sans contenu journalistique, sans journaliste, sans emploi, etc., vont être les radios qui n'ont pas de mécènes riches derrière, qui n'ont pas une organisation riche qui les soutient. Donc, voilà, ça va être des radios qui ont une certaine indépendance, aussi un certain ton de façon globale, et on sait bien qui sont les radios qui vont disparaître. Et quel message va disparaître ? C'est les radios qui parlent de droits humains de façon plus globale et qui apportent ce coup de projecteur si nécessaire sur ces sujets-là. De plus, je rappelle que d'autres attaques ont eu lieu dans le passé. On parle de la suppression des emplois aidés quasiment. Avant, les radios associatives utilisaient ce système justement pour permettre aussi à des jeunes qui voulaient entrer dans ce métier de pouvoir le faire à travers ces emplois aidés. Ça aussi, ça a disparu, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, en fait, on a fragilisé au fur et à mesure cette voie-là. Et je me pose des questions aussi sur pourquoi ces radios. Dernier mot, quand même, je rappelle que si aujourd'hui les radios commerciales existent et la France peut rayonner sur l'ensemble de la bande FM et même d'AP+, c'est bien grâce à la lutte de ceux qui avaient créé ces radios pirates. C'est ceux qui ont fait de la prison, certains, comme chez nous, hein, dans notre équipe, enfin les anciens, ce qu'on appelle, et donc qui ont fait de la garde à vue, qui ont dû payer des amendes sans nom et qui ont été suivis par les RG, par les RG H24. Donc, c'est ces gens-là, donc aujourd'hui, notre radio, notre média, donc Radio Bip à Besançon, mais chez vous aussi, partout ailleurs, c'est ces gens-là qu'on attaque en fait au final. Et c'est ceux qui ont créé cette richesse en France, donc tous ces emplois dans la FM, toute cette industrie de la radio, c'est ceux qu'on attaque. C'est tellement, la colère, elle est noire là, vraiment noire.
Effectivement, alors la clé des ondes a été aussi quelques instants, en tout cas illégale, mais a été créée après l'élection de François Mitterrand, quelques mois après l'élection de François Mitterrand, et donc n'a jamais connu de poursuite comme Radio Bip a pu connaître. C'est aussi ça l'histoire, par contre, de Radio Primitive à Reims, Émilie.
Oui, tout à fait. Radio Primitive a été créée fin 77, début 78, à l'époque par des personnes de l'organisation communiste libertaire qui ont été poursuivies, qui ont eu des interdictions de quitter le territoire. Donc des personnes de cette époque-là sont toujours dans la structure. C'est devenu Radio Primitive par la suite, avec une ouverture aussi au-delà de leur organisation. Mais effectivement, les plus anciens de la radio se sont battus, ont dû courir très vite et avaient des envies de transmettre un message. Alors même si la radio a beaucoup changé depuis 77, c'est certain, avec des missions qu'ils n'auraient sans doute pas envisagées et des sujets sur lesquels on sent un désaccord profond, je pense qu'il est resté cette envie de donner la parole à chacun. Radio Manivelle, au départ, était né pour parler des problématiques liées au nucléaire, pour parler des problématiques liées à l'accueil des personnes d'origine étrangère en France et leurs conditions de vie dans les foyers Sonacotra, de parler des conditions de vie en milieu carcéral. On en parle toujours, hein. Ces sujets ont toujours besoin d'être traités et d'être traités de façon différente que dans les médias mainstream. Donc non seulement on est enfant des luttes, mais en plus je pense que c'est des luttes qu'on poursuit toutes, radio associative avec nos histoires particulières. Donc voilà. Ça me paraît important de le rappeler. C'est aussi pour ça, oui. D'ailleurs, peut-être que nous demander de chercher du mécénat, au-delà du fait que, ça a été évoqué d'un point de vue économique, ça ne résoudrait rien, mais que c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est éthiquement impossible, en l'occurrence.
Geneviève, toi qui as aussi connu cette période, ce fourmillement qu'il y avait au moment de la création, au moment de 81, la création des radios libres, leur légalisation après, est-ce que là tu ressens aussi, alors certes c'est une lutte un peu défensive, mais il y a un mouvement commun quand même très fort qui s'est dégagé, on le disait un peu en introduction, mais toutes les radios de France, toutes les radios associatives se mobilisent fortement ensemble, avec des lignes éditoriales qui sont bien différentes, nous n'avons pas la même ligne éditoriale avec Campus, avec RIG, ou je pense aussi bien sûr à RCF en tant que radio confessionnelle. La Clé des Ondes n'a pas du tout les mêmes lignes éditoriales, mais on se retrouve sur ce combat commun. Est-ce que toi, ça te rappelle aussi des souvenirs de lutte commune, Geneviève ?
De lutte commune, oui et non, parce que lorsque les jeunes éclaireurs ont voulu créer la radio, enfin puisque c'était le groupe des éclaireuses et éclaireurs de France de Bordeaux, où j'étais responsable de groupe à l'époque, je pense que c'était plutôt des jeunes. Et à cette époque-là, on ne parlait pas tellement des projets des jeunes, donc on n'en parlait pas beaucoup. Donc eux, c'était plutôt le parler au micro, faire écouter des musiques qu'ils aimaient, ainsi de suite. Ils n'étaient pas du tout politiques. Et donc, partant de là, leur défense était plus parler au micro, c'était une joie, ça a été un grand élan. Moi, je voudrais revenir sur la question du déséquilibre qu'il se fera si les radios associatives ne meurent. Je pense que le CIRTI, qui est le syndicat des radios commerciales, enfin du moins d'un certain nombre, soutient notre lutte pour la bonne raison que je pense qu'en effet, si nos fréquences diminuent, il y aura peut-être des radios commerciales qui vont se créer, c'est certain, parce que les fréquences, elles seront là, et donc obligatoirement ils pourront les obtenir. Sauf que la manne pour eux aussi ne sera pas plus importante, parce que ça veut dire qu'ils vivent de la publicité, mais la publicité aussi sera difficile. Donc je pense que c'est aussi, ils voient cela. Puis il y a aussi la question du DAB, on en a parlé, le DAB, mais regardez nous ici à Bordeaux. Alors
juste pour refaire un point sur le DAB c'est ce que avant on appelait la radio numérique terrestre, un projet lointain, début 2000, ce projet devait déjà aboutir, il est en train d'aboutir 24 ans plus tard. Ce projet de DAB, c'est un système de diffusion parallèle qui existe déjà, vous le découvrez peut-être, chers auditeurs, chères auditrices, mais qui existe déjà en tout cas sur Bordeaux et sur les principales métropoles en France. Après, c'est un peu moins le cas quand même dans beaucoup de zones rurales où le DAB n'arrive pas et n'arrivera probablement pas. Mais ce système est un système parallèle. En plus de la bande FM, on a une double diffusion, ce qu'on appelle une double diffusion, d'une part sur la bande FM et d'autre part sur ce nouveau système du DAB, Geneviève.
Oui, et justement, quand tu disais qu'on n'avait pas la même ligne éditoriale, mais quand il s'agit de travailler sur le DAB, nous avons aussi été ensemble comme on l'est maintenant, et on ne se fait, même si on ne se voit pas souvent comme tu le disais au départ, que c'est une aventure, on se téléphone, on se tient au courant, on écoute de savoir ce que les uns et les autres font. Justement, on n'est pas nous ici, enfin surtout en Gironde je veux dire, et même au niveau de l'ancienne Aquitaine, on n'est pas dans la concurrence, on est plutôt dans la... Alors on ne peut pas malheureusement, je ne pense pas qu'une radio pourra en sauver une autre, parce qu'elle n'aura pas les moyens financiers, mais elle fera tout pour aider s'il y avait quelque chose qui se passe. Donc je crois
historiquement, la RIG a déjà pas mal aidé la Clé des Ondes, si je connais bien un peu l'histoire.
Oui, bon, après, c'est... peut-être qu'aussi c'est mon militantisme éclaireur là-dessus qu'il faut voir. Mais peut-être parce que justement, en tant qu'éclaireur, on n'est jamais seul, on partage. Donc ce partage, mais vous avez suivi, il ne suffit pas qu'il y ait quelqu'un qui lance, il y a aussi les autres. Si la personne qui lance est toute seule, ça n'ira pas bien loin. Donc je crois que le fait de faire mourir des radios associatives fera plutôt un déséquilibre. Je l'ai toujours dit, chaque fois qu'il y en a une qui mourrait, je disais, elle en entraînera une autre. Alors si l'État nous fait en plus en mourir plusieurs à la fois, c'est dramatique pour nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas accepter. quelle que soit la radio, elle a ses auditeurs, elle a les partenaires qu'elle reçoit, quelle que soit la radio. Il n'y a pas que les radios rurales. Les radios rurales sont importantes, mais en pleine ville, bon, c'est sûr qu'on est un peu plus dans la masse, on est moins connu, on est moins... je ne parle pas de Radio Campus qui, tout de suite, en disant Radio Campus, on pense aux étudiants, aux lycéens. Bon, pour les autres, comme nous, RIG, bon, on est moins connus, N'empêche que, j'étais quand même agréablement surpris, c'est que le technicien des Fer 3, a fait ses armes chez nous. Mmh. Je viens de l'apprendre, enfin, de le voir. C'est tout ça qui va aussi mourir avec nous. Parce que, on accepte de passer à l'antenne des choses que d'autres ne pourront pas. Par le fait qu'il faut calibrer, qu'il faut ci, qu'il faut là. Dans nos radios, on accepte dans les ateliers radio, lorsqu'on va vers les EHPAD, on fait des ateliers, on accepte des choses parce que justement, c'est important pour les personnes qui viennent. On est beaucoup plus sur l'humain. Et ce côté humain est important et il ne faut pas qu'on casse l'humain. Là, on se trouve que des gens qui disent « Oh, peut-être ça les... » Parce que non seulement il y a les radios associatives, mais il y a aussi toute l'économie sociale et solidaire qu'on va ponctionner de 20%. Donc ça touche toute l'éducation populaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a fait ce budget, mais je ne sais pas...
On pourrait penser, je pense, Geneviève, que tout ça c'est politique... Et que les radios associatives, comme d'autres associations aussi, c'est un contre-pouvoir médiatique. Et que, je ne sais pas, mais les radios associatives, en général, sont plutôt, ont plutôt une fibre plutôt à gauche. Hein. Alors, on est peut-être moins engagé, par exemple, à Radio Campus Bordeaux qu'à la Clé des Andes, par exemple, politiquement, mais on a cette sensibilité-là. Et je pense que dans cette volonté de supprimer, parce que c'est ça, hein, supprimer certaines radios associatives, il y a ce truc de « c'est pas grave, de toute façon, ils nous critiquent toute l'année ». Et je pense qu'il y a de ça dans ce choix-là. Voilà.
Emma, Audrey, toi aussi, alors on a une ligne éditoriale qui est assez proche avec Radio Bip à Besançon, entre la Clé des Ondes et Radio Bip, il y a des accointances, disons, sur l'engagement militant et la défense des droits humains. Cette idée, ce qu'évoquait Geneviève Tessier de RIG à Blanquefort sur aussi la nécessité de lutter, j'imagine que c'est quelque chose qui, en plus, à toi te parle. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous localement. Nous, on a du bol en Gironde, on se parle pas mal et on a échangé pas mal là, toute cette semaine. Et on construit des choses ensemble. Est-ce qu'on arrive à reproduire ce genre de choses aussi à Besançon, Emma ?
Alors, vous avez beaucoup de chance. J'ai envie de venir là-bas et puis travailler avec vous. Parce que franchement,
on accueille.
Non, malheureusement, ici, on est un peu isolé. Il y a une fédération des radios, mais le DAB+ a beaucoup cassé, très honnêtement, la dynamique avec... Ça a cassé beaucoup de choses entre nous.
C'est-à-dire que le moment où il a fallu essayer de travailler ensemble ou pas.
Détails, mais voilà. Malheureusement, il va falloir enterrer les armes de guerre et puis aller au-delà. Cependant, je voulais quand même rapporter un petit élément de compréhension pour les auditeurs qui sont là et qui écoutent et qui disent mais qu'est-ce qui se passe avec ces radios associatives ? Déjà pour le DAB+. Le DAB+ a été financé par les radios associatives sans contre-financement derrière. C'est-à-dire que ça a été soutenu. Ça rendement par les radios associatives. La plupart des radios qui sont en DAB+, c'est des radios associatives. Et ça a coûté extrêmement cher. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver des solutions. Certaines ont trouvé des solutions. Nous, on a essayé de trouver une solution où s'autodiffuser n'a pas réussi parce qu'évidemment, il y a des velléités de d'autres entités, on va dire, qui voulaient vendre de cette technologie aux radios. Donc voilà, il a fallu entrer dans cette zone-là. Mais disons que, pour moi, si vous voulez, il y a beaucoup de choses hein, qui sont soutenues par les radios associatives. Et donc, l'attaque qui est actuellement menée sur les radios associatives n'est pas anodine, à mon sens. Notre confrère le disait à l'antenne, c'est des radios souvent qui portent un certain message. Ce message, je pense aussi que si c'était des radios, je ne sais pas, qui plaisent au gouvernement, jamais de la vie ils auraient touché à ces radios, j'ose imaginer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas dans le bon sens. Il faut évidemment se regrouper, faire quelque chose, mais pas que nous. pas que nous, Radio Associative. Je pense que les auditeurs et auditrices doivent être au courant et puis leur permettre aussi d'agir, parce qu'il s'agit de créer une masse beaucoup plus large et puis faire comprendre à ce gouvernement que non, on ne peut pas aller prendre de l'argent là où il y a la plus grande fragilité financière, donc dans les associations. C'est complètement dingue de faire ça. Donc, bon, peut-être leur transmettre ce message, dire que vous pouvez appeler votre député, vous pouvez appeler votre sénateur, appelez-les, dites-leur ce que vous avez envie de dire pour sauvegarder donc, ces radios associatives. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, je pense aussi qu'il faut quand même lire ce qui est écrit sur le site de culture.gouv.fr. Donc, les radios, je lis hein, pour vous et aussi pour tous les auditeurs et auditrices. Les radios locales associatives, dont la contribution au pluralisme du paysage radiophonique est essentielle, garantissent une offre de radio large et diversifiée sur l'ensemble du territoire français, partout en France, dans l'Hexagone, comme en Outre-mer, et en particulier dans les quartiers de la politique de ville, de la ville et dans les zones rurales. Ces médias de proximité contribuent grâce à leur maillage territorial dense et à leur fort ancrage à la vitalité des territoires et au renforcement du lien social. Elles contribuent à l'information, au lien social, au divertissement, à la diffusion de la culture au sein des territoires. Par ailleurs, elles s'impliquent dans la vie économique, culturelle et associative des régions pour faire rayonner de nombreuses initiatives. Enfin, faisant appel à des journalistes, animateurs, techniciens, elles participent au dynamisme du tissu économique. Je veux dire, qui mieux que le ministère pour expliquer ce qu'on fait, nous, et notre importance en tant que radio associative. Eh ben moi, je dis, prenons ce texte qui est écrit sur le site du ministère, et puis allons avec lui, parce que de toute façon, ils savent à quoi ils s'attaquent. Dire, c'est écrit par eux-mêmes. Donc, c'est ça, en fait, qui est terrible dans ce truc-là. Maintenant, peut-être, place à l'action, et de façon globale, nationale, nous, les radios, essayons de nous retrouver, de créer quelque chose, une dynamique, et puis de l'autre côté, demandons à nos auditeurs à appeler les députés, les sénateurs, commencer à faire un vrai travail de terrain, parce que sinon, je pense que ce truc va passer, c'est clair.
Alors effectivement, sur cette lutte à construire, on peut signaler, pour ce qui est de nous en Gironde, que un des députés de Gironde, Nicolas Thierry, qui est sur la Circo Bordeaux 1, député Europe Écologie Les Verts, se saisit actuellement du sujet. Il n'est sans doute pas le seul. Il va en tout cas proposer des amendements au projet de loi de finances qui prévoit cette coupe de 30% dans la dotation du fonds de soutien à l'expression radiophonique, comme souhaite le faire Bercy et le ministère de la Culture. Il y a d'autres initiatives, bien sûr. Il est important, auditeurs, auditrices, et d'ailleurs, je signale qu'à l'antenne, depuis ce matin, nous diffusons également un message qui vous incite à nous envoyer tant des messages de soutien que des messages aussi pour alerter vos élus autour de vous, députés et sénateurs. On signale également que la sénatrice Monique Demarco, qui est à la Commission Culture, a également averti, bien sûr, de ce grave problème qui s'avance pour les radios associatives, sachant que l'une des choses, c'est que le temps que ce soit débattu, c'est-à-dire et acté à l'Assemblée nationale, il y a possibilité de parlementer, de négocier des choses hors Assemblée, mais aussi dans l'Assemblée jusque la fin d'année. On le rappelle, le projet de loi de finances va rentrer à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mais à force de navette parlementaire entre Assemblée nationale et Sénat, son vote définitif ne devrait être acté, ce projet de loi de finances, qu'à la fin de l'année 2024. Et en termes de dossier de subvention, les conséquences n'arriveraient qu'en fin d'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il y a une difficulté autre, c'est comment se projeter dans l'avenir pendant un an si on a cette coupe de 30% qui serait concernée. Alors, on le sait aussi, effectivement, Emma le disait, tous les coins de France ne sont pas peut-être aussi solidaires. Je ne sais pas, ou alors je ne sais que trop, Émilie, comment ça se passe du côté de Reims avec Radio Primitive. Là où il y a quand même une spécificité, ce sont des réseaux aussi nationaux qui peuvent venir en soutien, parce qu'il y a des beaux réseaux nationaux qui existent. Je pense à la FERAROC, la Fédération des radios de rock, Émilie.
Oui, alors nous, effectivement, on fait partie de la FERAROC, donc c'est plutôt le réseau dans lequel on est le plus actif et celui qui fonctionne le mieux au niveau des messages. Mais on fait partie du réseau de radio associative de Champagne-Ardenne, également la FRACA. C'est vrai que c'est plus compliqué, on a plus de mal à se fédérer, on a des affinités avec certaines radios, mais on est tellement différents les uns des autres qu'on a plus de mal à mener une action collective. J'aimerais juste, si cela est possible, parler un tout petit peu de l'éducation aux médias, à l'information.
Avec plaisir. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes.
Alors, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais beaucoup de radios associatives font de l'éducation aux médias, à l'information. Au sein de la Ferraroc, puisque c'est ce que je maîtrise le mieux, on est effectivement beaucoup à en faire et énormément. D'ailleurs, Radio Primitive est une radio qui statutairement se revendique de l'éducation populaire. Notre ligne militante est d'ailleurs en 2024, surtout du côté de l'éducation populaire. Or, donc c'est beaucoup, hein, on fait 180, quasiment 200 ateliers par an, essentiellement au sein de l'éducation nationale. L'éducation nationale est demandeuse, on sait qu'ils ont du mal à proposer à suivre le programme d'éducation aux médias et à l'information par manque de temps, par manque de moyens, par manque de personnel aussi. Qui fera l'éducation aux médias et à l'information s'il déshabille l'éducnat et s'il déshabille les radios associatives? Ils vont envoyer des entreprises privées faire de l'EMI auprès des jeunes? Oui, je pense. Très clairement, les formations qui sont proposées maintenant d'ailleurs pour fabriquer des gens qui feraient des interventions d'éducation aux médias et à l'information, s'appuie d'ailleurs sur cela, promettent monts et merveilles et beaucoup d'argent. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que mes enfants reçoivent une éducation aux médias et à l'information qui proviendrait de structures privées à but lucratif. L'éducnat, ok, les associatifs, ok, mais ça pose la question aussi de qui parlera après à tout ce jeune public qui doit être sensibilisé à l'éducation aux médias, à l'information. Et ça, je pense aussi que c'est très... C'est très inquiétant au-delà de notre propre survie de radio associative.
Ce sera le mot de la fin pour toi, Émilie Vigouroux, du côté de Reims et de Radio Primitive. Nicolas Loubert, Radio Campus, peut-être également un mot de conclusion aussi.
Oui, alors si on rebondit un peu sur l'éducation aux médias, on en fait tous de l'éducation aux médias et on est très content d'en faire, mais c'est quelque chose qui se rajoute en plus de nos attributions, de ce qu'on doit faire en plus de l'antenne déjà. Donc, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette coupe du fonds de soutien, aura une incidence aussi sur notre capacité à nous de continuer à faire ces ateliers d'éducation aux médias, puisque s'il y a moins de salariés, il y aura moins aussi de personnel qui sera habilité et en capacité d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées pour éduquer aux médias. Donc tout ça, c'est lié en fait. Le problème du FSER, eh bien, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt de tous les autres problèmes qu'on aura juste après.
Emma Audrey, un mot aussi de conclusion pour Radio Bip à Besançon.
Déjà, merci d'avoir eu cette initiative d'amener plusieurs radios. Je pense que ça devrait être peut-être un rendez-vous
on prend date,
à répéter.
Tu as raison.
Ouais, voilà. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire ce travail ensemble. Et puis, évidemment, j'incite encore une fois tout le monde qui écoute de vraiment passer à l'acte et puis prendre le téléphone et contacter les députés et puis les sénateurs pour leur expliquer à quel point c'est important de garantir cette indépendance, cette pluralité, et puis surtout, c'est une folie aussi administrative, parce que vouloir couper amener des gens au chômage, pour moi, c'est complètement, ça n'a pas de sens.
Effectivement, l'importance de se mobiliser aujourd'hui aussi en particulier, puisqu'on le sait, demain il y aura une négociation du côté du ministère de la Culture où les organisations professionnelles, le SNRA, le Syndicat National des Radios Libres, et la CNRA, Confédération Nationale des Radios Associatives, verront si ce n'est pas la ministre, en tout cas d'autres personnes du ministère de la Culture pour tenter de négocier, d'empêcher cette coupe d'un tiers de la dotation du fonds de soutien à l'expression radiophonique.